la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, chers lecteurs, chères lectrices, merci d'être à l'écoute de votre émission littéraire Un livre sur le zinc, en partenariat avec la librairie, la livrerie et la médiathèque départementale de Lozère. Nous sommes en direct de la librairie. Allez, chose promise, chose due, nous allons parler de rentrée littéraire, une nouvelle rentrée littéraire d'automne. Alors vous en avez l'habitude, on va sortir des auteurs et autrices attendus et dont la presse nationale s'est bien fait l'écho, alors on va quand même les citer, avec la sortie du dernier roman de Mélissa d'Acosta, Tenir debout, d'Amélie Nothomb, L'impossible retour de Gaël Faye avec Jacques Aranda, Les Enchanteurs de James Ellroy, Nul ennemi comme frère de Frédéric Paulin, etc., etc. Alors ce soir pour cette émission, nous avons une équipe amoindrie autant que le futur budget de 48FM avec la baisse drastique des subventions annoncées par la ministre Rachida Dati. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, d'autant plus que la baisse des effectifs de ce soir est due à de bonnes nouvelles. Pauline qui attend un heureux événement et du coup que l'on ne retrouvera qu'au printemps. Claire qui attend un heureux événement et qui du coup que l'on ne retrouvera qu'au printemps. Tiens, c'est étrange, c'est la même phrase. Allez, on salue nos deux chroniqueuses qui sont pour le moment devenues deux auditrices. Marlène, comme moi, et Valérie, on a dit stop aux enfants. Salut Marlène.
Salut.
Et salut Clarisse. Alors Clarisse, hop, j'entends pas très bien. Clarisse, pas d'enfant, hein. Alors, attends, tu vois, du coup, hop, le micro,
du
vas-y.
Du coup, tu lui as coupé le micro.
Disais...
Je disais, c'est pas au programme pour l'instant.
D'accord, et bien tant mieux, si tu peux attendre au moins le printemps prochain pour t'y mettre. Comme ça décalera un peu et on aura le retour des gens. Tiens, Valérie, toi, tu as eu plein de petits en cette rentrée littéraire.
Moi, j'en ai eu 544.
Eh bien, c'est bien, c'était ma question d'après. Que
je excuse-moi, j'en ai
c'est
eu
bien.
Plein.
J'allais te demander, ainsi qu'à Marlène, combien c'est une rentrée littéraire? Ouais, c'est 500 livres
c'est
à peu près.
C'est beaucoup trop. Beaucoup. Enfin, après, ce n'est pas que des romans dans les 544, il y a aussi beaucoup d'essais et beaucoup de quelques poches aussi, sorties poches, parce qu'on parle de rentrée littéraire, on pense aux grands formats qui sont sur les grandes tables à l'entrée, mais... Je regarde Clarisse et j'y fais un clin d'œil entendu
mais
pour lire les sorties poche aussi.
Est-ce que les rééditions, c'est vraiment une rentrée littéraire?
C'est une rentrée littéraire poche, il en faut pour tout budget des rentrées littéraires.
D'accord, ok, très bien. Donc j'accepte. J'enlèverai mes blagues sur les livres de 2023
non,
présentés par Clarisse dans cette émission. comme ça fait un moment que tu attends assis sur ta chaise pour commencer, on va commencer par toi, Valérie.
C'est affreux ce que tu dis. Parce que s'il y avait une caméra, vous auriez vu que je suis arrivée en courant, que je viens juste de poser
d'accord,
mon séant
veux...
royal
bon,
sur ma chaise.
Allez, je vais donner la parole à Marlène.
Peux,
sinon.
Bon, j'ai toutes mes notes sur
non,
mon...
Non, mais je vais donner la parole à Marlène. Carnet. Comme ça, je te laisse le temps d'arriver, c'est vrai. Comme ça, on peut servir un petit jus de pomme à nos chroniqueuses qui sont bien présentes ce soir. Marlène, une fille j'ai embrassée.
Oui, pas que.
D'Emma Donoghue. Pas une fille que j'ai embrassée, il n'y a pas de queue dans ce roman. Emma Donoghue.
Tu parles, toi.
C'est le titre, je trouve ça très beau comme titre. Une fille
que
j'ai embrassée,
oui,
ça s'appelle.
Dans ce roman.
Oui, il n'y a pas de
dans
queue
ce
dans
titre.
Ce roman.
Oui, dans ce roman.
Mais attention à ce que tu dis.
Ah, pardon. Ah non, non. Oh, tu l'esprit mal placé, Valérie.
Non, c'est pas ça. C'est, il faut être précis sur le titre.
C'est
sinon,
pour
les
ça.
Gens, après, ils vont venir en disant « Je voudrais le film. »
C'est ça. Une fille, j'ai embrassé. Très beau titre, d'ailleurs.
Oui.
Je pensais que c'était... Quand j'ai vu la pochette, je me suis dit « Ah tiens, Clarisse va nous présenter un livre de New Romance. » Eh ben non, c'est Marlène.
Non.
Alors, Emma Donoghue, qui est née le 24 octobre 1969 à Dublin, est une romancière et dramaturge irlandaise qui vit actuellement au Canada. De romans historiques et également contemporains ainsi que de romans relatant des relations lesbiennes. Une fille j'ai embrassée, je me demande de bien si on est dans le roman historique ou dans les relations lesbiennes.
Les deux, mon cher Ludo, les deux.
Exactement, car ça se passe en Angleterre en 1805.
C'est ça. Bon, ça se lit facilement, c'est assez sympa. Donc, ce que tu n'as pas encore dit par rapport à ta jolie présentation qui est totalement vraie, c'est que du coup, l'autrice a écrit à partir des écrits qu'elle a retrouvés, qui l'ont intéressée et qu'elle a voulu lire, des écrits de deux femmes qui ont réellement existé. Donc Eliza Raine, enfin, je ne sais pas si je le dis bien, mais enfin, bon, voilà, et Anne Lister. Et Anne Lister, effectivement, c'est une exploratrice
et femme de lettres également. Ouais.
Voilà, qui a fait beaucoup d'écrits, qui avait envie longtemps de se faire passer pour un homme aussi, en fait, qui portait des tenues d'homme et qui se faisait appeler comme les hommes à l'époque, on les appelait par leur nom de famille. Alors que les femmes, pas du tout. Et donc, elle souhaitait à chaque fois qu'on l'appelle Lister. Et du coup, c'est à partir des écrits et des correspondances entre ces deux femmes que l'autrice a écrit ce livre. Donc, c'est extrait d'une réalité, mais c'est un peu romancé quand même.
Voilà, ça reste romancé.
Voilà. Donc, là, en fait, on retrouve au pensionnat ces deux jeunes filles. Qui ont du coup une quinzaine d'années, je ne sais plus exactement. Et donc une, Eliza, qui est elles sont dans un pensionnat pour familles quand même aisées, hein, comme à l'époque ça se faisait beaucoup bien sûr. Et donc il y en a une qui est revenue en Angleterre, son père est originaire d'Angleterre, et sa maman était une indienne. Donc elle a vécu la petite partie de son enfance dans les Indes, où elle était, enfin où il y avait pas, voilà, il y avait pas de souci. Et quand elle arrive au pensionnat, en fait, elle est plus ou moins mise de côté aussi parce qu'elle est métisse.
D'accord. Ah oui.
Donc en fait, dans cet ouvrage, on va retrouver le côté historique sur la colonisation de l'Inde par les Britanniques, bien entendu, et le fait qu'après les métisses n'était pas toujours bien vue. Voilà. Donc en fait, dans ce pensionnat-là, elle se retrouve dans une chambre qui est totalement isolée de toutes les autres filles, qui est vraiment mise à l'écart, et elle est seule. Et ça ne la dérange pas plus que ça. Bon, on la regarde, mais voilà. Jusqu'au jour où arrive donc Anne Lister, qui se fait appeler que Lister, et qu'on impose dans sa chambre. Et en fait, au début, elles ne se supporteront pas vraiment, on va dire. Et au fur et à mesure, elles vont s'apprécier, elles vont devenir amies, et bien plus que ça, parce qu'il y a quand même des scènes assez torrides de leur relation de 15 ans quand même. Hein. Mmh. Voilà.
C'est toujours gênant quand il y a une frontière entre la réalité et la fiction comme ça. Je parle pas des scènes d'amour, je parle de cette rencontre, de se retrouver à un endroit seul. Ça, tu es allé voir, toi, un peu plus loin pour connaître la vraie histoire j'imagine que c'est compliqué à retrouver.
Oui, mais par contre, elles ont effectivement été ensemble. Donc, Eliza Raine, elle a réellement aussi... Donc, on le sait à la fin, mais elle a été internée à la fin. Elle a fini dans un asile, en fait. Donc, elle a terminé ses jours dans un asile. Avec toujours ce regret de ne jamais avoir pu revoir Anne Lister, qui, elle, était partie, a eu plein d'autres aventures. Elle a eu énormément de maîtresses, enfin d'amantes, je ne sais pas comment vous préférez comme terme. Mais parce qu'elle est partie explorer, elle a continué, etc. Alors que Eliza Raine est restée dans son univers, avec pas du tout l'envie d'être forcée à être mariée, etc. Enfin, voilà. Et en plus, comme elle était orpheline, c'était compliqué parce qu'elle n'avait plus vraiment la main non plus sur son destin. Donc voilà, c'était un peu... Mais effectivement, ce roman, il est... pour le coup, l'histoire... oui, c'est vraiment historique. On retrouve des choses quand même. De cette période-là, on a eu beaucoup d'écrits, donc on sait que voilà, il y a des choses vraies. Leur relation, on sait que pour partie, elle a été vraie. Après, il y a quand même... Voilà, je pense qu'il y a... Il y a des choses qui ont été rajoutées par l'autrice aussi, quoi. Et que peut-être elle a mis aussi un peu d'elle, parce que bon, pour le coup, même dans la relation tout simplement adolescente entre les filles du pensionnat, etc., on sent que ça peut être écrit, enfin voilà, de maintenant, quoi.
Alors elle fait, c'est l'une des autrices lesbiennes anglo-saxonnes les plus reconnues, avec Janet Whitton, Sarah Waters, Alice Smith, entre autres, qui a participé à enrichir cette littérature homosexuelle, qui était plusieurs fois primée en conséquence avec, avec diverses œuvres. Et ça, c'est important de, aussi de parler de femmes oubliées dans l'histoire avec un grand H.
Oui.
On en parle souvent, nous, dans les chroniques avec le CIDFF, de ces femmes de lettres oubliées. Anne Lister en est une, aventurière. Oui. Aussi. Ouais. Et ça, c'est important aussi, de, ouais. au-delà de cette image homosexuelle, de mettre en avant des femmes.
Et puis, elle a, c'est vrai qu'à cette époque-là, elle était quand même une des précurseuses sur justement l'émancipation, etc. Elle oui. le clamait haut et fort, et déjà toute petite. Donc, c'est, voilà, c'est, pour l'époque, c'était pardon, choquant.
C'est oui, pas, bah, voilà, c'est sûr. Ouais.
Il se lit vraiment facilement, et je suis pas étonnée de ce que tu as dit sur l'autrice, parce que vraiment
c'est ce que j'ai te demandé après en lecture pure et simple. Tu as bien été prise par l'histoire.
Ouais. C'est, je savais pas du tout où j'allais, parce que je me suis dit bon, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que c'est... mais ça se lit bien. Franchement, c'était agréable à lire. Voilà, on peut le recommander quand même.
Allez, ben on le recommande.
Surtout que, voilà,
complètement.
Pour une fois qu'on parle de femmes,
ben
hein,
oui,
que
exactement.
De femmes.
Maison d'édition, Les Presses de la Cité. Je ne connais pas. Qu'y a-t-il, Valérie? Tu recherches quoi?
Rien, les livres dont je dois parler.
Ah oui, ça serait pas mal. Parce que...
Tu n'étais pas obligée de le dire, parce que je m'enfuyais discrètement à les chercher.
Ils étaient situés où?
À côté de mon bureau.
Tu veux y aller, pendant
non,
que je te pose
dépend.
Une question?
Ça dépend.
D'accord.
Quelle est ta question?
J'allais te faire parler d'un livre.
Ça dépend
tiens,
lequel.
Donc. Je vais te faire parler de Cabane.
Eh bien, écoute, je suis d'accord.
Allez, Cabane,
ça
t'es d'accord.
Ça tombe bien.
Alors, on va commencer donc par cet auteur qui était attendu, lui. On parlait des auteurs attendus dont la presse nationale s'est fait écho. Je n'ai pas entendu spécialement de chronique sur lui, mais c'est un auteur qui est très attendu.
Je t'expliquerai pourquoi tu n'as
voilà.
pas trop entendu.
Et d'accord, ben ça m'intéresse. Oui. Et c'est, d'ailleurs, c'est un livre qui est sorti là à l'automne et qui a déjà obtenu un prix. Le prix des libraires de Nancy, Le Point 2024. Alors Valérie, est-ce que les libraires à Nancy ont bon goût pour Cabane d'Abel Quentin?
Absolument, puisqu'ils y ont donné un prix.
Eh bien oui, mais peut-être qu'ils peuvent donner un prix et que ce roman ne t'a
goût.
Pas spécialement plu.
Si, sinon j'en aurais pas parlé. En fait,
d'accord.
Parce que vu qu'il y en a eu quand même 544, j'allais pas m'inquiéter à parler de livres qui ne m'ont pas plu. Mais pourquoi est-ce qu'on en entend un peu parler? Attention, je fais ma minute... la collapsologue est de sortie et la complotiste aussi.
Ah.
Alors, on en a entendu parler, il y a eu quand même pas mal de presse dans des radios nationales, mais je pense qu'il n'a pas eu la même publicité que pour Le Voyant des Tempes, par exemple, qui avait été un grand roman à succès, qu'il avait extrêmement fait connaître, ou le livre qu'il avait fait sur les sœurs, donc les qui partaient.
Voilà.
T'allais en parler peut-être.
Non, oui, mais je peux en parler maintenant. Voilà, pour situer le personnage, si vous voulez, son premier roman Sœur en 2019 a été dans la sélection du prix Goncourt et finaliste du prix Goncourt des lycéens. Son deuxième roman Le Voyant des Tempes a eu le prix de Flore, finaliste Renaudot et sélection Goncourt 2021. Cabane est son troisième roman, donc voilà, ça vous situe
avec
un peu l'écrivain que c'est.
Avec des avis très, très cinglants, parce que moi j'ai été totalement hystérique à sa sortie, je l'ai dévoré, c'est quand même un gros pavé, et j'ai pas compris parce que j'ai regardé sur le site qui donne des étoiles au livre, et là, ben, la note très, très moyenne, et j'ai pas compris. Et j'ai été lire les mauvais avis, en fait. C'est les bons avis, j'avais pas besoin, puisque moi, j'avais bon avis dessus. Donc,
moi, j'ai vu beaucoup de bons avis, quand même.
Il y a des bons, mais il y a des gens qui, en fait, ne veulent plus entendre parler de ce sujet-là. Et ils ont tort, parce que... puisque vous ne savez absolument pas quel est le sujet, chère
ben
co-chroniqueuse.
Non, hein. Et pour suspense
ceux qui
jusqu'au bout.
Voilà, et pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, dépêchez-vous. En fait, Cabane, c'est une réécriture, enfin, une réinterprétation du rapport Meadows. Rapport Meadows qui a réellement existé dans les années 70, je précise pour Clarisse car elle n'était pas née. C'est un groupe de scientifiques, t'es née juste après.
Pas dans les années 70.
Oh, ça va. Et donc c'est un groupe de scientifiques donc, qui était du MIT à la base, qui avait planché dur sur un ordinateur, les premiers ordi IBM qu'il y avait, qui s'appelait Gros Bébé, qui avait rentré tout un tas de données. et qui ont comme résultat, en mélangeant toutes ces données, que nous allons inéluctablement, à la fin des années 2100, vers une extinction de l'humanité. Donc ils se sont dit, on a dû se tromper, on a du mal à rentrer un chiffre, et donc ils ont réécrit, remis tout un tas de données, ils y ont passé jour et nuit pendant plusieurs années, et le rapport était sans commune mesure que s'il n'y avait pas simultanément de la décroissance, du contrôle des natalités, une baisse de la consommation, une prise en compte sur le fait que nos ressources naturelles n'étaient pas,
elles se régénèrent pas.
Qu'il y avait des limites.
Infini.
Voilà, il n'était pas infini. Mais si on ne prenait pas en compte tous ces paramètres au même moment et en même temps et de façon stricte, qu'on ne pouvait pas faire que le contrôle des natalités ou que la baisse de la
consommation. Alors donne-nous la date, là. On n'en peut plus d'attendre.
Année 70. Année 70. Et rapport Meadows est sorti. Et c'est. Et en fait.
Non, mais la fin de l'extinction de 2100.
Oui, mais sauf que c'est descendu, là. On est passé à 2080, du coup.
Eh bien, oui.
Et donc. Benjamin, n'importe quoi. Abel Quentin, donc, a lu le rapport Meadows. Il en a fait une réécriture. Il en a fait cabane. Alors là, dit comme ça, on a tous envie d'aller se coucher sur un rail en espérant que le train passe. Mais il y a de moins en moins de trains, merci. Donc, autant rester là et être optimiste et se dire, voilà, lisons ce livre. Dans le livre, donc, il le réinterprète, donc ça ne se passe plus au MIT, mais on a toujours un couple d'Américains, on a un chercheur français, et je crois que le troisième est norvégien, enfin le quatrième est norvégien, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est dans la vraie vie ou dans le roman. J'ai mélangé, mais bon, peu importe.
Oui, peu importe.
Et on a des Italiens qui demandent une étude pour savoir justement est-ce que le monde est encore viable ou pas. Et ils trouvent ce rapport. Et qu'est-ce qu'on fait? Et je vous pose la question. Et vous, si demain on vous disait, si on vous écrivait noir sur blanc, si on ne met pas en place de la baisse de la consommation, de la natalité, si on ne prend pas en compte ces paramètres, Qu'est-ce que vous faites? Vous y croyez?
Moi, je vais à la piscine.
Ok. Marlène?
Alors, à part t'enfermer et déprimer, non, parce que je ne suis pas comme ça. Le verre à moitié plein, eh bien, il faut se bouger. Hein.
Mm-hmm. Clarisse?
Et moi, pour rebondir à ce que dit Marlène, je me dis que même en étant optimiste, ce n'est pas nous, à notre échelle, parce que j'en parlais avec une de mes collègues, en triant nos papiers, par exemple, c'est... pas ça qui va sauver la planète pour moi. Si on atteint déjà les limites, c'est qu'il est déjà trop tard.
Bien, quel optimisme. Ouais. Non, voilà. Et en fait, là, dans la suite de donc là, dans le roman, c'est le rapport 21, et on a le couple d'Américains qui est persuadé qu'en fait, en alertant les citoyens, en alertant les politiciens, en alertant la population, ils en ont fait évidemment le rapport Meadows pour les nuls. Hein. Enfin, c'est-à-dire, ils l'ont totalement vulgarisé, c'est devenu accessible. Et ils se sont dit, on sort quand même des années 60, on est dans une Amérique qui est libre, qui est en pleine croissance. Et il dit, les gens vont prendre conscience de ça, tout va bien se passer, on va décroître, tout ça. Et en fait, ce rapport, il est un peu mis sous cloche. Il est tu par les politiques, hein, puisque les politiques, OK, on veut bien travailler à long terme, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plus dans 2-3 ans, qu'est-ce qui va se passer. Donc le rapport, il est étouffé. Donc le couple d'Américains, eux, dans la vraie vie comme dans la fiction, ils vont se battre, ils vont aller essayer de prêcher la bonne parole. Le deuxième, l'Européen, lui par contre, il dit tant pis, il vit dans le déni et il va travailler même pour une station, une marque de compagnie pétrolière. Voilà. Donc, et le quatrième, par contre, lui, on ne sait pas s'il vrille, s'il décide de repartir dans la nature. Il disparaît, foufou. On ne sait pas où il est. Et donc là, dans le roman, on arrive à l'époque contemporaine et il y a un journaliste qui s'intéresse à ces chercheurs et qui part sous forme un peu d'enquête. Ça devient un peu un thriller à la recherche du quatrième. Et là, le roman demande une certaine attention à la lecture parce qu'on fait des allers-retours entre les années 70, maintenant, et par moment, les anciens, celui qui était en Europe revient aux États-Unis. Voilà. Et derrière, et ce qui est surprenant dans ce roman, c'est que on sait que c'est une histoire vraie, on sait exactement où on va si rien ne se passe, mais malgré tout, il se lit sans avoir envie de pleurer, sans avoir envie de. C'est pas noir, c'est au contraire, c'est un fait. Voilà, c'est un fait, c'est un constat, et c'est un constat qui est extrêmement bien écrit. Voilà, donc c'est un livre qui, moi, qui m'a marqué, qui me marquera. J'en confonds la fiction avec la réalité. Et
Je reviens sur, ouais. sur tes explications de départ. Pourquoi ça n'a pas plu?
Il y a certaines personnes.
C'est à cause
en fait,
du thème, c'est à cause de quoi?
Il y a certaines personnes, parce que le thème de la fin du monde, il a été beaucoup mis en avant. Là, on a eu tous les romans qui sont sortis post-Covid, en fait. Hein, et il y a eu pas mal de Hervé Lecor, des gens comme ça, qui ont écrit sur un monde post-apocalyptique. Et je pense qu'il y a toute une frange de la population qui l'a lu, qui n'a pas aimé parce qu'ils n'avaient plus envie d'entendre parler de la fin du monde. Mais il y a aussi beaucoup de gens pour qui il y a un déni total de tout ça. Il existe toute une partie de la population qui dit que c'est des conneries pour nous manipuler. C'est pas vrai, on peut toujours continuer à consommer.
Il y a une action collective des climato-sceptiques pour démonter le livre,
je pense.
Là,
j'en suis pas jusque-là,
mais c'est possible.
Pourquoi pas? Parce que les avis que j'ai lus qui étaient négatifs n'étaient pas sur... Alors les gens ont été certains déçus de ne pas retrouver la poésie du Voyant des Tempes ou autre, mais... Bon, il a le droit, t'as mieux. Hein. Moi, je préfère qu'un auteur il change un petit peu.
Ben, c'est toujours bien.
Voilà, parce que tout le monde ne peut pas faire du Dickers et faire du Dickers ou faire du Dickers. Enfin, voilà, oui. c'est bien qu'il change de sujet. Et c'est vraiment bien fait. Enfin, c'est quand même sérieux. Ça, il va loin dans ses explications. Et sans nous tirer non plus vers le bas. Enfin, et pourtant, Dieu sait si le sujet, il est compliqué.
Alors, va-t-il avoir un prix? Parce
J'espère.
Que là, ces deux premiers romans...
J'espère, alors je sais...
Ah ben oui, il a déjà eu un prix à Nancy.
Mais toi, tu parles du prix...
Oui, je te parle des prix un peu plus reconnus.
Reconnus dans le sud aussi.
Dans le sud voilà. aussi, c'est ça.
Mais okay. Je ne sais pas.
Abel Quentin. Alors, Abel Quentin s'appelle Albéric de Gaillardon.
Mais ça, c'est quand il est avocat.
Voilà, c'est quand il est avocat. Il est né en 1985 à Lyon. Et son nom de plume, tu sais de quoi il est inspiré, Valérie?
Absolument.
Toi qui as travaillé le sujet.
C'est toi qui fais les biographies, mais je ne m'intéresse pas à ça.
Son nom de plume est inspiré du surnom Albé, diminutif d'Albéric, et du nom du personnage d'Albert Quentin dans le livre Un singe en hiver d'Antoine Blondin, qui est sorti en 1959. Voilà, c'était pour la petite anecdote pour briller en société dans vos prochains repas de famille à Noël. Tiens, je t'ai offert ce livre. Ah, mais tu sais d'où vient son nom? D'accord.
Après, le livre a une magnifique couverture aussi. C'est rare qu'on parle des couvertures. Mais c'est
on n'a pas maison d'édition, oui, on n'en a pas dit.
Aucune idée, je ne sais pas. Je me demande si c'est pas l'Observatoire.
Je ne sais pas, non, on vous le dira à la pause.
Si tu nous laisses traverser la librairie, mais je crois que c'est l'Observatoire. Et si c'est pas ça, excusez-moi.
Mais on vous le dit de toute façon avant la fin de cette émission. Merci Valérie. Attention, Clarisse prend des risques. Elle sort
wildcard.
Wildcard.
Merci.
Dommage, Clarisse.
Alors, enchaîner, c'est prêt.
Wildcard. Attention. Alors, est-ce un roman? Est-ce une édition illustrée?
Un essai sur le climat.
Wildcard. Ouais. Donc, pour rappeler à nos auditeurs, la wildcard, c'est la gagne d'une émission sur l'autre.
Non, c'est moi qui la distribue. Tu n'as absolument rien gagné.
C'est des jeux quand même au début aussi.
Ouais.
Tu m'as dit si tu couches, t'as la wildcard.
Non, pas du tout. Ça, c'est.
On avait dit pas le queue aujourd'hui.
Non, on avait.
Marlène,
voilà, voyons. Tu sais que mon épouse écoute la radio quand même.
Pardon. Elle était là.
Allez, stop.
Non, la wildcard.
D'ailleurs, un petit jingle. Wildcard.
C'est la wildcard. Donc, j'ai eu la wildcard, donc j'ai le droit de parler du livre que je veux. Donc, je vais vous parler d'un magazine et d'un article de magazine. Comme on n'a pas le droit de citer les noms de marques, je vais juste parler d'un article qui m'a beaucoup touchée ces derniers temps. Je l'ai lu ce week-end. Le titre de l'article s'appelle « Budget 2025, un coup de massue pour les radios associatives qui perdent un tiers de leurs aides ». Donc, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que vous retrouverez cet article en libre lecture ou du moins sa réécriture sur le site de 48fm.org. À savoir que si vous voulez continuer à écouter votre émission de radio en livre sur le zinc ou si vous voulez continuer à pouvoir écouter toutes les émissions de votre radio locale préférée, mais aussi de toutes vos radios locales préférées sur la Lozère, puisque je crois que nous sommes 6, je le dis un peu...
Je te dirais, on est 5 sur...
5 employeurs, c'est sûr.
Non, on est 5 radios.
Voilà.
Une sixième qui est Cévennes, un peu gardoise, mais on va la compter.
Voilà, on l'accepte quand même. Donc, c'est pour dire qu'en fait, toutes les radios locales associatives sont grandement en danger avec des coupes annoncées par la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui annonce une coupe très très ferme dans tout ça. Donc si on ne fait rien, on n'aura plus le choix de nos radios, donc on n'aura plus le choix d'écouter les émissions que l'on a envie. Et donc petit à petit, on aura peut-être juste une seule émission littéraire peut-être sur toute la France, et donc une pensée de plus en plus restreinte. Oui, je suis un peu pessimiste, mais voilà. Et surtout, si Ludovic est au chômage, il va passer ses journées à m'empêcher de travailler. Donc on peut déjà là trouver un argument de fond. Donc c'était aujourd'hui, j'ai plein de trucs à dire sur la littérature, mais je pense que ce sujet est assez important pour qu'on prenne 2 minutes pour en parler. C'est mon coup de gueule du soir.
Merci, mais j'avais un jingle coup de gueule à l'époque, j'aurais pu le sortir.
Oui, mais là c'était ma wildcard.
Et je te remercie d'utiliser ta wildcard pour ça et pas pour présenter Gardien de ma vie de Joël Batz, alors que ça fait quand même 5 ans qu'on attend de pouvoir le présenter.
Et c'était exactement ce que j'avais prévu, l'édition illustrée de 1984.
Voilà, mais on en parlera plus longuement. Je te remercie Valérie.
De Joël Batz ?
Non, de l'état des radios associatives, parce que c'est pas simplement une baisse de subvention, c'est réellement la vie ou la mort des radios associatives des 750 en France. Je sors d'une réunion nationale en visioconférence là, et c'est très très grave ce qui se passe, sachant que voilà, on baisse 35% de l'enveloppe dédiée aux radios associatives, FSER. Alors le FSER, c'est pas de l'argent qu'on donne comme ça, c'est de l'argent pour mettre en place des actions de proximité, des actions d'intérêt général, et ça nous permet de fonctionner, de mettre en place ces actions comme de l'éducation aux médias et à l'information, comme de parler de ce qui se passe à côté, de parler de thèmes importants comme le droit des femmes, ou de parler également de littérature à nouveau local et pas attendre la rentrée littéraire et de parler que de Mélissa d'Acosta par exemple. Voilà. Mais on en reparlera prochainement, on va vous tenir au courant. Voilà, vous pouvez en parler à nos parlementaires lausériens si vous les croisez. On va prendre, on a demandé des rendez-vous avec eux, je pense qu'on n'a pas encore la réponse, ça devrait arriver prochainement, et on vous tiendra au courant. Mais oui, on est gravement en danger avec près d'un tiers de nos ressources qui baisseraient, donc licenciement et après plus assez de moyens pour pouvoir proposer tout ce qu'on vous propose à l'heure actuelle, voire de disparition pour certaines radios associatives, bah oui. Y compris en Lozère, avec au moins 2 qui risqueraient de disparaître avec une baisse de budget de l'ordre de 25 000 euros, voilà, ce qui est énorme pour nous, quoi. Merci Valérie.
Ben, avec plaisir.
Mais on en reparlera. Merci pour cette wildcard. Mais ce sera moi qui en aurai la prochaine fois, tiens.
Ah bon,
wildcard. Mais j'en ai pas eu encore.
Oui, t'en as pas eu, ouais.
Mais tu dis ce que tu veux, t'es le chef.
C'est ça. C'est vrai. Eh ben, je la donnerai peut-être à une prochaine invitée. On va essayer de trouver des chroniqueuses ou chroniqueurs pour nous rejoindre. On a quelques pistes, on va leur demander. D'ailleurs, si vous êtes intéressé aussi pour participer à cette émission, si vous nous écoutez depuis un moment, n'hésitez pas à aller voir Valérie à la livrerie pour lui en parler. Elle vous fera passer un petit casting. Vous n'aurez pas besoin de coucher, vous inquiétez pas. Et après, on vous prendra ou pas. On ne sait pas, on verra, ça dépend.
On verra.
Attention, Clarisse prend des risques. Je l'avais bien préparé, t'as vu ?
C'est un jingle ?
Ouais. Ça pourrait. Elle sort de sa zone de confort. Pas de new romance, mais alors pas du tout là.
Pas du
dans
tout.
Dans cette émission, on va parler du livre Les Silences des Pères de Rachid Benzine. Alors Rachid Benzine, il est né au Maroc en 1971. C'est un islamologue, politologue et un enseignant franco-marocain, bien sûr, un écrivain. Il est romancier, dramaturge. C'est une des figures importantes de l'islam libéral francophone. Alors, pour vite fait expliquer, c'est un mouvement réformateur au sein de l'islam qui concilie modernité et religion. Et qui travaille sur certains sujets sociétaux qui semblent tabous dans la société islamique, comme la place des femmes, les relations de la religion et de l'État, voilà, entre autres. Il a également été champion de France de kickboxing. Voilà, donc je tenais à le dire parce que je trouve que dans son parcours, il a un très beau parcours universitaire. Voilà, il a été connu notamment en sortant, alors je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque, parce que c'était en 1998, il avait lancé avec le père Christian Delorme un dialogue islamo-catholique qui a donné lieu à un livre, « Nous avons tant de choses à nous dire ». Alors, Richard Benzine, qu'est-ce qu'il nous dit, Clarisse ?
Du coup, dans ce roman, c'est l'histoire d'un musicien qui apprend le décès de son père, en fait, dès le début du livre. Avant cet événement, ça faisait déjà quelques temps qu'il n'était plus en contact avec son père. Il s'était éloigné parce que lui, il n'arrivait pas à comprendre son père. C'était quelqu'un de très discret, donc il ne comprenait pas pourquoi il ne disait jamais rien, pourquoi il n'exprimait pas son opinion. Voilà, il n'avait pas la même vision de la vie que lui et il avait préféré s'en éloigner jusqu'à du coup cet événement. Il est d'ailleurs allé aux obsèques seulement pour ses sœurs, voilà, pour le soutien de ses sœurs, voilà, tout simplement. Et donc bien sûr, suite au décès, il a fallu vider l'appartement. Il faut savoir qu'il vivait dans une cité, un très petit logement, la famille t'entassait avant que les enfants prennent leurs envols. Mais il fallait quand même enlever toutes ses affaires. Et donc c'est à ce moment-là que le musicien, du coup, retrouve en fait sous la baignoire des cassettes audio où c'était en fait son père qui racontait année après année sa vie en France. Parce qu'il faut savoir qu'il vient du Maroc et qu'en fait, il a été embauché du jour au lendemain pour travailler dans les mines. Et donc voilà, on retrouve, on suit tout au long du roman du coup le parcours du père. Et donc son fils en fait va faire ce voyage en fonction des cassettes, aller dans différentes villes pour rencontrer les gens qui ont connu son père et du coup apprendre à connaître qui était ce père si discret de son vivant. Voilà. Et donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, pour le coup j'ai pris un bon risque parce que je savais pas à quoi m'attendre. C'est vrai que pour ma sélection je me suis pas trop cassé la tête, hein. J'ai tapé rentrée littéraire 2024 sur Google, j'ai vu qu'il était sorti en poche, j'ai lu le résumé, ça me plaisait bien, la couverture était jolie, je me suis dit allez hop on y va. Donc je m'attendais vraiment à rien au départ et en fait ça a été une super belle découverte, vraiment le...
Ça a l'air très fort, ouais. Très poignant. Ouais,
très, très émouvant. Enfin, on se met vraiment à la place de la personne. Et puis, on se remet en question aussi, dans le sens où on se dit, je côtoie des gens tous les jours, mais est-ce que je les connais vraiment? Et même les personnes de notre famille, finalement. Parce qu'on se dit, je m'entends pas trop bien avec. Moi, je vois pas les choses comme ça. Donc, je préfère un peu m'en éloigner. Et malheureusement, c'est souvent quand il est trop tard qu'on se rend compte des choses. Donc, ça mène aussi à réfléchir. Et pour le coup, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment la plume de l'auteur. On est vraiment happé par son écriture. Et c'est un court roman, hein, donc ça se lit très vite. Mais voilà, moi, j'ai pas eu de passages qui m'ont ennuyé. Vraiment, ça s'est lu d'une traite et c'était vraiment très poignant, quoi. Donc, une belle découverte.
Oui, ça a l'air très beau, très beau sujet. Maison d'édition, c'est...
Les éditions Point.
Les éditions Point, donc qui est sorti en poche, petit format. Qu'y a-t-il, Valérie? Tu voulais
je
me dire quelque
pas,
chose
mais tu m'inquiètes.
Non, je te donnais le livre pour le montrer. Bah, c'est le livre que je vais présenter maintenant.
Ah,
c'est pour
et
ça.
Tu voulais que je te le montre?
Non, c'est pour le montrer à la radio.
Tu en as déjà posé un exemplaire devant elle.
Ah, d'accord, c'est pour ça. Voilà. Je ne vois pas, il était derrière l'ordinateur. Allez, je fais
pourtant,
vite.
Pourtant, il est gros.
Oui, il est gros. Je fais vite avant la pause musicale. En plus, parce que tout le monde connaît l'histoire. J'ai vu que tout le monde avait délaissé pour cette émission les BD, les romans graphiques. Donc, bien sûr, je me suis dévoué. Merci les filles. On voit bien, on prend des romans courts. Voilà. Alors, tout le monde connaît le roman de Sa Majesté des Mouches de Sir William Golding. Hein, tout le monde l'a étudié à l'école. D'accord ?
C'est à peu près ça.
Voilà. Alors, je ne vais pas revenir dessus sur l'histoire. Pour en rappel, si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui ne l'ont pas lu,
il
existe toujours en folio. C'est un avion qui transporte 15 élèves de la haute société anglaise qui s'écrase. Tous les adultes périssent, il reste que ces enfants livrés à eux-mêmes et donc ils essayent de se mettre ensemble pour créer une société en se basant sur, en reproduisant les schémas sociaux en fait qui leur ont été inculqués pendant leur jeunesse, mais ça ne tient pas bien longtemps. Ça laisse finalement place à une société tribale, violente, bâtie autour d'une religion rudimentaire. Voilà. C'est un classique de littérature hein, qui traite avec pessimisme de l'organisation sociale, du pouvoir et de la loi. Alors, c'est un classique qui a été édité en 1954, mais qui vient d'être réédité en roman graphique en cette rentrée littéraire d'automne. Alors, vous me direz, mais qui ose s'attaquer à ce chef-d'œuvre ? Eh bien, c'est la dessinatrice hollandaise Aimée de Jong qui s'y est collé et j'avoue que le rendu est formidable. Mais vraiment,
c'est beau.
C'est beau, hein, c'est magnifique. Elle est connue pour Jour de sable, pour ceux qui aiment les romans graphiques. Alors, elle a un sens de la mise en scène, mais vraiment exceptionnel. C'est extrêmement fidèle à l'histoire originelle, ce qui est important pour moi. J'aime pas quand il y a une histoire de base et qu'on prend ses aises avec l'histoire de départ. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus parce que tout le monde connaît l'histoire, j'ai pas à la raconter. Il faut vraiment venir le voir, donc n'hésitez pas à passer à la livrerie ou dans vos médiathèques et à le demander pour le lire ou à le prêter à vos enfants adolescents avant qu'il étudie à l'école, parce que c'est quand même un peu violent. Hein. Donc, j'ai mémoire de l'avoir étudié au collège quand même, mais peut-être que je me trompe. Non, toi, c'était collège aussi ?
Oui, collège, je me souviens, cinquième.
Oui, pareil.
Oui, c'est pas mal. Oui.
Cinquième. Donc voilà, ou pour le redécouvrir, si vous n'avez pas envie de vous replonger dans un roman de 300 pages, allez-y, c'est vraiment excellent. Voilà, comme ça on aura fait le tour aussi des romans graphiques. Allez, on va faire une petite pause musicale. On revient de suite après pour vous présenter la suite de cette rentrée littéraire.
Au revoir.
Ah non, ce n'est pas au revoir, du tout. On n'a pas fini.
C'est une nuit, tu le dis. Hein.
Non, non, je reviens.
Thank you.
Et voilà, on est de retour. Il s'en passe des choses pendant cette pause musicale.
C'est dingo complet.
C'est complètement dingo. Bref, tiens Valérie, allez, on va repartir avec toi. Merci d'avoir, de nous avoir amené quelques petites gourmandises à manger pour nos papilles. C'était quelle maison d'édition alors
L'Observatoire, c'est bien ce que j'avais dit.
Tu avais raison, bravo. Nagui Ziné, une trajectoire exemplaire.
Alors. Déjà, Frédéric Becbédé, si vous nous écoutez ou si tu nous écoutes, merci de bien vouloir donner à Nagui Ziné le prix Flore. Voilà, parce qu'il y a un resto en jeu, donc ça m'intéresserait que...
Ok, ouais. Bah, il nous écoute.
Mais
donc,
confrère écoute... libraire, on a mis ça sur le tapis. Donc...
Il nous écoute.
Mais je
donc,
sais, c'est pour ça que je me permettais. Voilà, donc Nagui Ziné, tu veux en parler ou on parle du livre?
Comme
on fait
tu veux, c'est un premier roman, hein, il me semble. Il a tout juste 30 ans, ce Absolument. Jeune homme. Il réinvente dans ce livre...
Mais il ne raconte pas le livre.
Non, je ne raconte pas le livre.
Normalement, tu es censé faire une biographie.
C'est vrai. Alors, il y a très peu de choses à dire, vu que c'est un premier roman, qu'il est très peu connu. Mm-hmm. Par contre, je vous invite à le suivre sur Instagram. Il a un compte qui s'appelle Nestor Maigret et qui est très, très drôle. Il fait plein de petites chroniques tous les jours avec une photo. Il écrit des textes qui sont très, très drôles de lui et de la personne qui s'occupe de lui à la maison d'édition, qui parcourt la France... voir un peu plus loin pour aller signer des dédicaces et c'est très très drôle. Il vient de rencontrer Benoît Poulvorde pour voilà, le dernier texte qu'il a mis en place. Voilà, c'est tout ce que je peux dire dessus pour l'instant et je reviendrai peut-être après.
Bien, eh ben, c'est super. Je fais une petite, un petit prologue avant de parler vraiment du livre. Très régulièrement, je discute avec un ami libraire donc, de Pézenas. Fabrice, tu nous écoutes et j'espère que tu nous écoutes. Et on s'échange chaque fois nos coups de cœur en disant « qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Je lis ça ». Et des fois, on se fait des injonctions à lire. C'est-à-dire, c'est « tu dois lire ça ». Et donc, celui-ci faisait partie d'une injonction à lire. Une trajectoire exemplaire. Donc moi, quand j'ai une injonction, j'obéis, je ne cherche pas à savoir de quoi ça parle, quel est le sujet. Bon, il n'était pas trop épais, donc j'avais le temps de le lire. Et donc, je commande une trajectoire exemplaire chez Joël Losfeld Édition. Et je m'aguisinais, je me dis, je ne connais pas du tout. Je ne lis pas le quatrième de couverture. Et là, j'attaque la lecture, qui commence par un prologue donc, qui s'appelle Patrick Dewaere. Donc déjà, ça me fait marrer. J'ai l'humour facile. Et on rentre dans l'histoire du livre qui est écrit à la deuxième personne du singulier. Donc le narrateur, auteur, c'est « Tu ne sais pas pourquoi tu y repenses maintenant, mais tu y repenses ». Et tout le livre est comme ça, et on suit l'histoire donc de N. On ne sait pas qui il est, mais ce qu'on sait, c'est que c'est un loser formidable, un loser merveilleux. Et à mesure que je le lisais, je me disais « Attends, là, on est... » entre Bukowski, on est entre Burroughs, on est sur Subutex. Et c'est tout ce joyeux, je peux le dire, bordel ou c'est interdit ?
Tu peux le dire.
C'est un joyeux bordel. Et il raconte sa vie, en fait, où à tout moment, on sait qu'il peut s'en sortir. Il est sur la tangente, il est sur la corde à linge, il est sur le fil. Et il y va, et il y va. Et donc, on voit son... on suit sa vie, en fait. On suit quand il quitte son appartement et sa petite déchéance. Alors, je ris, mais c'est pas drôle. Mais la façon dont il l'écrit, en fait, à cette deuxième personne du singulier, tu fais ci, tu fais ça. Dans les rues de la ville, les rencontres qu'il fait, c'est fabuleux. Donc, il rencontre à un moment donné, il rencontre une femme. On se dit, tiens, il va se sauver grâce à elle. En fait, hein, il prétend qu'il est auteur, mais en fait, il passe ses journées au bistrot du coin. Il lui pique tous les jours un peu d'argent, elle n'y voit rien. Enfin, c'est l'écriture. Alors, même si le sujet peut paraître justement du Bukowski recuit, pas du tout. Il a son style à lui et il nous embarque dans l'histoire de N. On ne sait pas comment il s'appelle, hein, on peut l'appeler Ludovic, mais c'est ouais. pas évident à lire. Voilà, et c'est vraiment le loser merveilleux et c'est génial de le suivre comme ça dans sa vie, dans ses galères sur galères, mais en même temps, on a envie qu'il s'en sorte, mais on a aussi envie qu'il continue à aller vers cette déchéance, parce qu'on se dit, bah, plus il va tomber bas, plus il peut remonter haut. Mais
on peut l'appeler Nagui aussi.
Ah, c'est Nagui, c'est dit à un moment. Mais non, ah, il s'appelle Nagui l'auteur.
Il s'appelle Nagui l'auteur.
Putain, j'avais même pas fait le rapport.
Découvrir un truc.
Incroyable. Tu penses que c'est sa vie, non?
Je pense que c'est sa vie, peut-être.
En non, tout cas, t'as l'air contente. Enfin, ah, la façon dont tu en parles nous donne envie déjà de le découvrir.
Ouais.
Et puis, tu vois, t'es entre rire et... Enfin,
oui, il paraît que c'est extrêmement drôle, très percutant et extrêmement drôle.
C'est génial. Ouais. Bah, après, moi, j'aime beaucoup Despentes, je vois un culte à Bukowski.
Mais là, sa maison d'édition le classe entre Bukowski, Jim Thompson et Simenon.
Ouais, alors le Simenon, là je suis en train de repenser au passage du Polar Lys ou La Neige était sale, je vois pas bien
tu
le lien.
Pas,
là,
ouais.
Peut-être La
ouais.
Neige était sale éventuellement. Mais du Bukowski totalement, quoi. C'est le digne héritier, évidemment. Et la plume est très très chouette pour un premier roman. Ça se tient en haleine du début jusqu'à la fin, ça se lit d'entrée. Je ris encore en y repensant parce que je me suis marrée, je crois que je le lisais en marchant et je me payais des fous rires, mais je m'arrêtais de marcher pour rire à par moment. Alors là, j'ai que l'exemplaire de la librairie dans les mêmes, mais le mien, il y a des notes dessus, j'avais prévu plein de petits passages, mais je sais pas où je l'ai mis.
Ah, zut.
Voilà. Mais voilà, mais je suis sûre que j'ouvre à n'importe quelle page et on se marre. Enfin, c'est
étonnant d'écrire à la deuxième personne.
Ben oui, c'est
pas gênant dans la lecture.
Un peu au départ, mais le texte est gênant. Enfin, excuse-moi.
Ah, je sais pas.
Mais si, parce que tu vois cette dégradation de.
En fait, il a expliqué. Pendant que tu cherches un passage, il a expliqué. Je l'ai vu en vidéo. Donc, il parle d'un loser magnifique qui boit en fait en attendant l'amour jusqu'à ce que ça lui tombe dessus. Et en fait. L'amour arrive finalement, mais après je dirais pas ce qui se passe parce que bon,
l'amour arrive, mais c'est comme tout.
Arrive. L'amour arrive pas toujours, hein, tu sais. Des fois, il y a des gens qui l'attendent toute leur vie. Hein.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Là, ça fait beaucoup de bars à écumer en attendant.
Il va toujours au même, en fait. Il revient
il va
toujours.
D'accord.
Voilà, mais il raconte, en fait, quand il boit, donc il rencontre cet amour. Enfin, c'est une parenthèse, mais je sais plus, Irène, non? Je sais plus comment elle s'appelle.
Je ne sais pas, c'est toi qui l'as lu.
Il rencontre une femme donc un peu plus âgée, qui a l'air très... j'allais dire la quinca qui s'assume, qui a sa maison, son chat, enfin nickel. Et lui, c'est un jeune totalement paumé. Et il raconte que quand il boit, en fait, il imite Aznavour. Donc on sent cette femme, enfin ce deux mondes qui peuvent pas cohabiter. Et en fait, et qui cohabitent bien parce qu'elle lui en veut un peu. Mais pas tant que ça parce qu'elle le garde encore et c'est voilà après il va se passer il faut quand même qu'il y ait un petit rebondissement hop mais voilà
ah, il faut rien dire Valérie
non je dis rien sinon ça gâche
si
ça,
tu dis un peu là déjà
non je rien du tout il faut bien qu'il se passe quelque chose sinon on s'ennuie et puis voilà puis on a dit que c'est un loser formidable donc il faut bien qu'il arrive des trucs cocasses et c'est génial et quand on l'imagine quand il dit tu vas encore une fois imiter Aznavour et là, mais moi, je le vois. Enfin, je le vois dessiner. Je le vois dans un vernissage totalement bourré, être le vilain petit canard, mais que finalement, soit on pardonne, soit on en rigole, mais qui dénote pas malgré tout dans tout ça, en fait. Un Vernon Subutex par Bukowski, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que c'est une super. Je m'attendais pas à ça quand. Je m'attendais à rien puisque j'avais lu sur injonction de lire et ça a été mais alors une claque monumentale et je me marre encore rien que d'y repenser. Donc si vous voulez vous marrer, après il faut aimer cet humour aussi. Hein. Si par exemple Bukowski est quelqu'un qui vous répugne et que vous n'avez absolument pas aimé aucun de ses livres, passez votre chemin. Mais si vous avez de l'humour, allez-y. Voilà.
Excellent Valérie, ben moi en tout cas ça m'a donné envie de le lire.
Hein. Je sais, tu me voulais me le piquer.
Voilà c'est ça, mais je vais plutôt te l'acheter.
Ouais c'est une bonne idée aussi,
voilà.
Je vais vérifier si on l'a bien.
Je ne sais pas.
Nestor Maigret. Nestor Maigret, il raconte ouais, avec la personne de sa maison d'édition qui s'occupe de lui. Et donc il va, et on lui pose des questions, donc il fait de l'impro, il revient la voir et dit alors j'ai été bon là sur l'impro. Il dit non, t'es complètement nul, tu dis n'importe quoi, de toute façon t'es trop bourré. En fait, c'est très très drôle. Je vais vous montrer des photos de lui, il a une bonne bouille d'écrivain. En attendant, je vais donner la parole à qui tient Marlène. Marlène, tu vas nous parler d'un livre qui est sorti en mai.
Oui.
Eh ben oui.
Bon, on est parti dans autre chose. Hein.
Eh ben écoute, c'est ça le but de cette émission aussi, c'est de parler de tout, ouais, parce qu'on va parler, eh bien, on va parler de chasse aux sorcières avec un premier roman qui est sorti en mai. On triche un peu hein, pour cette rentrée littéraire, mais vu qu'il y en a certains qui parlent de romans de 2023.
Hein. Allez, ça revient toujours. Hein.
On peut parler en mai.
Mais en fait, nous, c'est notre nouveauté médiathèque départementale, c'est juste qu'on est à la bourse sur la rentrée. On a six mois de décalage.
Le temps d'étiqueter.
C'est ça, on a six mois de décalage. Donc c'est bon, c'est ma rentrée littéraire aussi.
Flûte. Alors, un premier roman hein, de Margaret Meyer, La Marée des sorcières, qui a grandi en Nouvelle-Zélande, qui est née au Canada et qui vit à présent à Norwich, en Angleterre. Voilà, donc elle se balade.
Norwich Witch, c'est une sorcière
Et oui.
C'est ça, Norwich Witch. C'est ton auteur, je te montre les vidéos de ton auteur. C'est bon de me dire c'est qui avec un air de dégoût. Eh ben ouais, c'est un loser, magnifique.
C'est peut-être Monsieur N.
Non, c'est pas lui, c'est pas possible. Si.
Alors, vas-y. N.
Pardon.
Ah oui, non, on n'est pas du tout dans la même chose. Hein. Donc c'est bientôt Halloween. Oui. Non. Mais du coup, pour le coup, moi, deuxième roman historique.
Eh bien oui.
Puisque chasse aux sorcières, inquisition, tout ça.
En ce moment, t'es plus roman historique.
C'est
fou, alors.
Ça. C'est qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas. C'est le hasard. Mais j'ai dévoré. Ah, j'ai adoré. Donc là, on suit en fait l'histoire. Je sais même plus comment elle s'appelle, la petite.
D'une petite.
D'une petite.
Ouais, appelons-la N.
Non. Je sais même plus comment elle s'appelle. Oh mon Dieu, alors que j'ai adoré. On suit l'histoire d'une femme qui est accoucheuse. Mm-hmm. Ouais. Donc du coup, qui à l'époque.
Sage-femme,
voilà. Qui aide les femmes à accoucher.
Oui.
Mais qui du coup travaille aussi les herbes, etc. Puisque à cette époque-là, hein, voilà, elles étaient mi-herboristes, mi-sorcières.
Pour avoir une péridurale, non, tu vas manger de la lavande.
Ouais, c'est pareil.
C'est pareil.
Et donc, elle est muette et elle fait comprendre en fait que elle a l'impression de tout le temps avoir une espèce de ver dans la gorge qui la gêne et qui l'empêche de parler. Donc parfois elle se force, mais elle dit je sens ce ver qui monte et j'y arrive pas. Donc elle communique par signes, notamment avec du coup son maître, enfin c'est pas un maître, mais c'est le couple qui l'a recueilli et pour qui, chez qui elle est servante en fait. Mais elle est appelée voilà, régulièrement par les femmes du village pour les aider dans les accouchements, etc. Même des fois pour les soigner quand il y a des soucis. Bon, voilà. Donc 17e siècle, on a quand même encore pas mal de maladies. Et débarque, pour le coup, ceux qui sont censés faire expier tout le monde et ceux qui sont censés trouver les sorcières.
Oui, on les connaît, ceux-là. Hein ils ont un nom.
Oui, ils ont un nom. Et que je dis, c'est comment catastrophique là, ce soir.
Ils sont à Bercy.
C'est ceux-là, les datiseurs.
C'est ceux de Bercy.
C'est ça. Et donc... voilà, le village, un des villages anglais, du coup, puisqu'il y en a plusieurs, là, c'est un qui est tiré. Alors, l'autrice, elle précise que c'est pas un village qui existe, celui qu'elle décrit, mais elle s'est basée sur des faits historiques qui ont eu lieu dans plusieurs villages, quand même, anglais autour. Et donc, débarquent nos chasseurs de sorcières.
Les inquisiteurs ? Non, ouais. C'est les inquisiteurs de sorcières.
J'ai dit déjà les inquisiteurs tout à l'heure, l'inquisition. Mais, qu'est-ce que je veux dire ? Mais je sais plus.
On a complètement perdu Marlène.
Mais moi je suis perdue.
Totalement.
Est-ce qu'on l'a refait ? Marlène, qui sont les personnages de ce livre ?
Je ne sais plus.
Sinon, on zappe, hein, donc, on peut zapper ce livre.
Non,
hein.
En fait, ça ne
m'intéresse plus, là, ça y est.
Mais, je suis plus intéressée. En fait, t'as tellement aimé que tu te souviens plus.
Ouais. Ouais, c'est ça, mais ça fait
Il est peut-être sorti en mai 2023, finalement.
Ouais. Ça fait 3 semaines que je l'ai lu, donc. Et Martha, en fait, elle va tout faire. Bon, bref, elle communique par des signes, etc.
Donc, c'est une vraie sorcière.
Et oui, non, mais elle utilise vraiment des herbes, etc. Elle aide les femmes à accoucher. Enfin, voilà. Et en fait, donc, plusieurs sont accusées dans le village d'être des sorcières.
Et ils ont raison.
Donc, dans le livre est décrit un petit peu comment ils faisaient pour trouver les sorcières. Voilà, donc ils les examinaient donc à poil, du haut en bas. Ils regardaient si elles avaient des petites déformations sur elles, même des graines de beauté, tout ça. Donc les graines de beauté à l'époque étaient considérées comme en fait les mamelles des démons. Donc à partir du moment où ça ne saignait pas avec des petites piquettes là, voilà, et ben effectivement, tu étais désignée comme sorcière, par exemple. Enfin bon, c'était très. Donc ça raconte vraiment, des détails sur comment ils faisaient, voilà. Donc pour les faire avouer, expier, et pour qu'elles, pour qu'on sache vraiment que c'était des sorcières, ils les faisaient marcher pendant des heures et des heures et des heures sans arrêt. Donc ils se relayaient auprès d'elles pour les faire marcher. Donc bien sûr, les pieds en sang, enfin tout ce qui va bien avec, hein, super. Et voilà. Et donc forcément, ces femmes, au bout d'un moment, qui n'en pouvaient plus, elles avouaient des choses qui étaient fausses, mais c'est pas grave, elles avouaient. Donc elles sont condamnées soit au bûcher, soit à la pendaison, soit à la torture, enfin plein de choses. Donc tout ça s'est raconté. Et Martha, dans tout ça, essaye de sauver ses amies à elle. Parce que... comme elle est muette, mais qu'elle a aidé beaucoup de gens, etc., et notamment son maître, il va la recommander pour que elle aide les inquisiteurs à trouver les sorcières. Donc elle est là et elle examine les femmes et voilà. Et donc elle essaye de sauver le maximum de ses amis, puisque dans le village elle connaît tout le monde au final, à s'en sortir. Mais elle sera à son tour accusée d'être une sorcière. Voilà. Et donc après, elle se débat je veux prouver quand même que je n'en suis pas une, sauf que la vindicte a déjà décidé que non, tu en étais une et point.
C'est un seul roman, c'est pas des tomes.
C'est un seul roman.
Et ça se passe à quelle période ?
Parce que ça pourrait en appeler d'autres.
17e siècle en Angleterre.
Ouais, mais tu vois, parce que ça me faisait penser. Alors, vu qu'on a le droit de parler de la rentrée littéraire de 2023,
oui.
A priori,
ben oui.
Il y avait une super BD qui s'appelait L'herbe du diable, le récit très actuel d'une sage-femme au 17e siècle. Mais ça se passait à Cologne, c'est pour ça que ça m'interpellait. C'était exactement la même histoire.
Est-ce que c'est pas un plagiat ?
Non, mais après,
non,
là,
c'est à Cologne, moi.
Là, tu vois, le village, elle a appelé Killifwater, mais elle a bien expliqué que, du coup, c'était un mix de plusieurs petits villages, qu'il fallait pas... Il y a un peu de fiction, quand même, dans son récit. Pour le coup, on s'interroge vraiment si elle était sorcière ou pas, parce qu'elle a une espèce de petite poupée faite en cire.
Ouais.
Faut pas tout dire, là, Marlène. Hein.
Non, mais
attention.
Après, je peux pas dire la suite, mais voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein de petits détails, comme ça, on se dit, ah oui, mais vraiment, en fait, sorcière par sorcière. Mais ce qui est intéressant, c'est sur le côté historique, voilà, on apprend aussi un petit peu comment ces femmes étaient traitées, comment, du jour au lendemain, une femme qui t'aidait pour soigner tes animaux, pour soigner tes enfants, etc., tu décidais que, non. Là, pour le coup, du jour au lendemain, c'était effectivement une sorcière, et c'était à cause d'elle que tes enfants étaient morts de la grippe ou d'une autre maladie, etc. Ou alors, bien entendu, tout le côté
ésotérique.
Tout le côté les hommes supportent plus les femmes. Attends, je me dépêche.
Les hommes
ne supportent pas les femmes parce que du coup, elles leur disent non. Ouais. Et pour le coup, ma cocotte, tu vas être une sorcière, quoi.
Mmh. Oui, mais c'est ça. C'est en plein pendant la guerre des 30 ans, t'as la famine, c'est les ça. Maladies, tout ça. C'est ça. Et c'est,
Mais non, il est bien. Okay. Il est bien. J'arrive pas.
Merci. On ne le lira pas, Marlène. Clarisse, on se dépêche, il est déjà 20h. Clarisse, de la new romance. Une histoire d'amour, de vie, de mort entre un homme et son chien.
C'est de la zoophilie,
là. La new romance, elle n'est pas trop là. Mais...
Son odeur après la pluie, Cédric Sapin du four. On y passe vite. On en a beaucoup parlé de ce livre. Il a bien marché d'ailleurs, Valérie, ici. Il est auteur, journaliste, alpiniste, ancien chroniqueur du mensuel Montagne Magazine. Elle a des lectures quand même, cette Clarisse.
Donc c'est son premier roman en tant que romancier, mais voilà. Il écrivait beaucoup sur la montagne. C'était un peu le Rochette.
Et là, il a eu le prix littéraire 30 millions d'amis.
Oui, c'est ça.
Voilà. Mais c'est vrai en plus, hein. C'est pas une blague.
Il a été payé
pour l'amour, son amour avec son chien. Alors dis-nous, Clarisse.
Alors du coup, moi pour la petite histoire, ce livre, j'en avais pas entendu parler avant le début d'année.
Tu avoues que tu l'as commencé à lire en début d'année. D'accord.
Non. Je l'ai lu. Je l'ai lu là.
Ah, en fait, c'est la rentrée littéraire de Clarisse, l'émission. C'est pas la rentrée littéraire des livres.
Mais okay. En fait, j'avais une de mes anciennes bénévoles qui m'en avait parlé en me disant mais tu connais pas ça, faut vraiment que tu le lises, etc.
Elle se fait des wildcards toute seule. Boum, je vais me faire ma wildcard. J'ai présenté un livre qui n'a aucun rapport avec le thème.
Et en fait, j'ai vu pendant ma recherche justement qui sortait en poche là. Août 2024, donc sur la rentrée littéraire poche. Je suis dans le thème, qu'on m'accuse pas de triche, merci.
Elle est constante.
Et donc, vraiment, pour être honnête, je me suis demandé comment j'allais résumer ce livre. Mais en fait, je peux pas faire plus simple que de dire c'est vraiment une histoire d'amour, oui, mais pas de la new romance, entre un chien et son maître. Voilà, je peux pas faire plus simple. De l'adoption du coup de Hubak, alors si je prononce bien le nom, jusqu'au deuil que la mort entraîne. Voilà, l'auteur nous raconte son quotidien, ses moments de vie, il nous fait vraiment part de ses pensées. Et enfin, en bref, il nous livre en toute sincérité et simplicité sa relation fusionnelle avec son chien. Voilà. Et alors, j'avoue que j'ai même pas lu les dernières pages. Parce que je... Déjà, j'ai versé une larme à la préface. Donc déjà, c'était mal parti. Mais en fait, je savoure ma lecture. Je n'ai pas envie que ça s'arrête. Je connais en plus le dénouement, donc je sais très bien comment je vais terminer. Donc voilà, je n'ai pas envie que ça se termine. Donc je n'ai pas encore lu les dernières pages. Mais c'est... Bon, bien sûr, c'est une histoire très émouvante. Hein, et puis... tous les propriétaires d'animaux qui se respectent se reconnaissent aussi dans le récit de l'auteur. Et voilà, pour moi, c'est un beau livre et du coup, une belle découverte.
Une belle écriture ou pas ? Parce que...
Alors,
pas
je
forcément.
Trouvais que... Si. Alors, moi, j'ai pas eu de mal à lire. Je comprends assez bien, mais c'est vrai que des fois, l'auteur utilise des mots qui pourraient être bien plus simplifiés. Et en lisant un peu les avis qu'il y avait eu sur ce livre, j'ai vu que c'était en partie ce qui avait été reproché aussi. Mais pour moi, ça ne m'a pas gênée dans la lecture, mais du coup, je ne le recommanderais pas à un âge jeune. Quoi. Il faudrait attendre un peu.
Et ça a beaucoup plu donc, chez toi, Val ?
Oui, et alors d'abord à ceux qui sont propriétaires d'animaux, et particulièrement de chiens, il y a eu un gros engouement. Après, moi, j'en avais fait de lecture un peu l'histoire du bac avec son maître, où on savait très bien la fin. Et puis un côté un peu plus psychologique. Et c'est là où il utilise des fois, effectivement, des termes qui... je trouve qu'ils ont donné du cachet à ce livre, parce que l'histoire du maître avec son chien, on avait déjà Belle et Sébastien, enfin voilà, mais ça...
Oui, ça a accentué le récit quand même.
Oui, c'est ça, ça a apporté encore plus de poids et ça a évité justement de tomber dans un truc pathos de « je rends hommage à mon chien ». Non, c'était « oui, je rends hommage à mon chien, mais je rends hommage à l'amour, au sentiment, à l'affection ».
Oui, des fois, moi j'avais l'impression d'oublier qu'en fait il parlait de son chien, des fois tellement c'était... Enfin, c'est des émotions fortes qui ressortent de l'histoire. Et des fois, on oubliait qu'il parlait de son bouvier bernois. Quoi. C'était vraiment,
il y a une sincérité dans son écriture. Et moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire après ça.
Eh bien, on va essayer de le suivre. Il a écrit de nombreux ouvrages, mais beaucoup sur l'alpinisme et la montagne.
Oui, mais c'est des essais, des documentaires.
C'est des essais, ouais, c'est ça.
Là, c'était vraiment un premier roman.
Et qui a été honoré d'un prix. Merci, on s'arrête là. Tu voulais dire un mot sur Philippe Jaénada, La désinvolture est une bien belle chose.
C'était aussi resté du temps, mais à lire, parce que Jaénada, d'habitude, il nous fait des très gros pavés... et là, qui sont très bons. Et là, en l'occurrence, c'est plus court, donc ça fait moins peur. Et c'est, il raconte, on est toujours pareil, on part d'une histoire vraie. J'aime bien les histoires vraies en ce moment, d'une période qu'on a un peu oubliée. Enfin, pas la période oubliée, c'est sur après l'occupation, donc la guerre est terminée. Et il va raconter un peu l'histoire d'une jeunesse qui, pendant l'occupation, avait 10 ans. 10, 11 ans, 10, 12 ans, enfin, qui était vraiment trop petit pour pas se rendre compte de ce qui... Enfin, trop petit pour pouvoir aller faire la résistance, se battre, lutter contre l'occupant, mais trop grand pour ne pas comprendre ce qui se passe. Et donc, avec une jeunesse qui n'a pas été vécue, donc ils sont passés de l'enfance à pouf, grande ado, et ils se retrouvent là, à 18, 20 ans, oisifs, aller dans les bars et à être des petits gars sans gêne parce qu'ils sont, paumés. Et cette jeunesse-là, en fait, il s'y intéressait parce qu'un jour, il a trouvé une photo d'une jeune femme qui, à l'âge de 20 ans, elle était belle comme un cœur. Elle avait tout pour plaire, tout pour réussir, l'amour, la gloire, la beauté. Ah non, ça, c'est déjà pris. Et elle a mis fin à ses jours. En fait, elle a mis fin à ses jours et donc il s'est renseigné. Il a remonté l'histoire de cette photo.
Elle s'est défenestrée.
Elle s'est défenestrée, oui. Et il a voulu comprendre pourquoi elle en était arrivée là. Et c'est là où il a découvert cette jeunesse parisienne qui était paumée, en fait, qui n'avait pas de code, qui n'avait pas fait la guerre, mais qui l'avait vécu, qui avait besoin de profiter de ses libertés, mais qui était trop grand pour rester des enfants, et qui est désinvolte. Et ça a donné le titre, donc la désinvolture est une bien, bien belle chose. Et comme il a une très belle plume, Janada, ça apporte encore plus à ce récit qui se lit très, très bien, très vite et qui donne une empathie aussi à tous ces jeunes qui sont nés juste aux prémices de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas ce que tu en avais.
Oui, c'est ça. Je n'ai rien à rajouter. C'est okay. Très bien.
C'est parfait alors.
Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Marlène, merci Clarisse. On n'a pas encore le thème de la prochaine émission, ça sera la surprise. Hein, on n'y a pas réfléchi encore, je vous avoue. Donc
peut-être c'est Clarisse qui va décider.
Ouais, Clarisse. De toute façon, Clarisse, elle s'en fiche, elle balance des wildcards à toutes les émissions. Quoi.
Ça, c'est faux. Mais... On pourrait parler du Noël Bats.
On pourrait parler du... Non, ça, c'est ma wildcard à moi. On verra. Je me rappelle, Clarisse, une fois que tu avais présenté un roman sur l'Inde alors que c'était le thème d'après. Hein,
ça, c'était la wildcard, par contre.
Ah, c'était
une wildcard. C'était une romance en Inde.
C'était une romance en Inde. Allez, merci, on vous retrouve dans un mois. Ciao, ciao.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.